RCF. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, j'ai été un peu contrarié par une association à laquelle j'adore depuis 13 ans et qui, par une AG numérique, nous invite à modifier quelques éléments statutaires. Alors jusque-là, pas de problématique majeure, hein, c'est le cadre de la gouvernance des associations. Mais ce qui m'a contrarié, voire choqué, ce sont deux articles qui vont être modifiés. L'association en question, depuis plus de 80 ans, a la même baseline statutaire pour une économie au service de l'homme et prône l'importance de la personne humaine. Et aujourd'hui, on nous propose de changer l'économie au service de l'homme par l'économie au service du vivant et personne humaine par dignité humaine. Déglissement des champs sémantiques. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, cela veut dire beaucoup, comme le dit la chanson. C'est un nouveau signe de la désanthropologisation du monde pour une écocentrisation. Plus notre monde avance, plus on veut nier la place de l'homme avec un grand H, mesdames. C'est-à-dire que vous êtes incluses dedans au profit du vivant et donc plus d'universalisme. En élargissant le focus de l'homme au vivant dans son ensemble, on peut se demander comment il est possible d'articuler les intérêts parfois concurrents des humains et des autres formes de vie d'une manière qui respecte la dignité de tous. Car soyons clairs, le vivant n'a pas besoin de l'homme pour exister. Il aurait même peut-être plus besoin de le voir disparaître. Mais passer d'un anthropocentrisme à un écocentrisme est-elle la solution? Je pose la question ici. Certes, c'est plus universalisant, mais c'est plus déshumanisant. Car ce qui fait la force de l'homme, c'est sa capacité à comprendre, à se tromper, à son échec, à être résilient, à rebondir, à être fier, nier notre humanité dans le monde économique, c'est laisser l'économie au service du plus fort et peut-être parfois laisser le vivant prendre le dessus. Bref, welcome in the jungle. Cette tension entre les besoins et droits de l'homme et ceux des vivants dans son ensemble invite à une réflexion profonde sur nos priorités, nos responsabilités en tant qu'espèce. Mais pourquoi ne pas évoquer les deux pour une économie au service de l'homme et du vivant? Il ne faut pas opposer les deux, mais lier les deux en les rendant à la fois nécessaires et complémentaires. De même, dignité humaine et dignité de la personne humaine. La première acception tend à uniformiser alors que la notion de personne singularise les deux. La dignité de la personne humaine, alors lions-les. Bref, ma conclusion dans tout cela, c'est que nous sommes dans un monde de réaction et j'en reviens à ma chronique de la semaine dernière. On milite, mais on ne réfléchit plus. On réagit à coups d'émotion. La philosophie et les philosophes ont-ils encore une place? On pose le principe, car tout le monde fait comme ça. On ne pose plus les fondements anthropologiques. Allez, fini les sanglots, notre émission est sous le thème du réenchantement. Alors allons-y, bienvenue dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions cette semaine depuis Bordeaux. Et oui, on se balade beaucoup dans l'écho des solutions en ce moment, où se tiennent les assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens autour de cette question: comment aujourd'hui réenchanter le travail? Et nous avons donc déposé nos micros ici dans la capitale du vin. Et rappelons cette phrase qu'on entend au cœur de nos eucharisties: le fruit de la terre et du travail des hommes. Et pour nous accompagner, eh bien, dans cette émission, quatre personnalités du monde de l'entreprise et du travail. Et je dois avouer que nous n'avons pas vraiment la parité cette semaine. Je vous les présente tout d'abord. Un que vous connaissez très bien puisqu'il est un de nos chroniqueurs réguliers, c'est Nicolas Masson. Bonjour Nicolas.
Bonjour Patrick.
À côté de vous, Nicolas, Pierre-Yves Gomez, qu'on a déjà entendu dans l'émission à plusieurs reprises, mais je suis très, très heureux de vous avoir en face parce qu'on vous avait souvent de manière numérique. Bonjour Pierre-Yves Gomez.
Bonjour.
Et puis à côté de vous, Christophe Delachaise, qu'on connaît bien aussi, puisque nous ouvrons depuis 7 ans l'émission chaque saison depuis Smith Olafit, depuis l'Université Homme Entreprise. Et vous venez de sortir un ouvrage qui est un peu une synthèse de ces universités. Bonjour Christophe Delachaise.
Bonjour Patrick.
Et puis pas très loin de nous, par les voies du numérique, François Baer. François Baer, ancien militaire qui a aujourd'hui créé une école de discernement, l'Académie, l'école de discernement 2019. Et avec vous, justement, François, on essaiera de voir comment, dans ce monde du travail, il y a encore une place pour le discernement. Bonjour François Baer.
Oui, bonjour Patrick.
Voilà, tous ensemble, on va rentrer dans le vif du sujet, mais on va commencer avec vous, Nicolas Masson, parce que les entrepreneurs et dirigeants chrétiens viennent de publier un baromètre. C'est le baromètre annuel, mais très orienté sur la question du travail. On se retrouve tout de suite après ça. Vous êtes notre invité écho de cette semaine.
L'invité écho, Patrick Longchamp.
Ça va, il n'a pas bougé de son micro, il est toujours là. Bonjour Nicolas Masson.
Bonjour Patrick.
Merci donc d'être là pour cette émission et d'être notre invité éco de cette semaine. Ça y est, je vais y arriver. Les EDC ont l'habitude de sortir chaque année un baromètre, le baromètre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui interroge, comme tous les ans, le sujet de la confiance et d'autres éléments qui permettent justement d'avoir au fil des ans un regard. Vous avez questionné beaucoup le travail avec un thème aux assises des EDC qui est réenchanter le travail. J'ai envie de vous poser la question d'abord, pourquoi avoir choisi ce thème de réenchanter le travail? Est-ce qu'il était si désenchanté que ça? Et on verra ce que le baromètre en dit de cette question du travail.
Alors, je suis pas sûr qu'il soit si désenchanté que ça. Néanmoins, on voit bien que dans la société, on parle beaucoup de la crise du travail. Et moi, d'ailleurs, quelque chose qui me frappe, c'est qu'il y a une dizaine d'années, c'était pas un sujet, le travail. Mmh. On ne parlait pas du travail. On parlait éventuellement de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, mais on ne parlait pas du travail lui-même. Et je crois qu'il ne faut pas bouder notre plaisir, le fait que ce soit devenu un sujet clé et essentiel, d'autant plus que, comme chrétien, avec tout le travail qui a été fait, notamment au travers de Laborem Exercens ou de la date aussi, on a quand même une longueur d'avance sur ces sujets-là. Et donc, on peut vraiment travailler sur ces questions du travail.
Alors justement, quels sont les grands enseignements de ce baromètre? Bon, sur la question de la confiance, vous m'avez dit en préparant, bon, ça bouge pas beaucoup finalement, les EDC sont plutôt assez confiants,
alors,
globalement.
Ils sont globalement confiants et ils suivent globalement, avec un petit décalage, les autres entrepreneurs. Mmh. On observe quand même deux choses. La première, c'est que depuis quelques années, on est sur un plateau. On est plutôt sur le bas du plateau. Est-ce qu'on va y rester? Ça, c'est la question pour l'an prochain. Mmh. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a un écart de plus en plus grand entre la confiance que je peux avoir dans mon entreprise, mon équipe, et puis la confiance que j'ai dans l'environnement économique. Et cet écart se creuse dans des proportions qui ne peuvent qu'interroger. On a 50 points d'écart entre j'ai confiance dans mon entreprise et son avenir et j'ai confiance dans la vie économique et de mon pays. Donc il y a un écart qui se creuse et qui ne peut pas ne pas à terme poser un certain nombre de questions.
Mmh. Le questionnement est intéressant parce que quand on regarde les tranches d'âge auxquelles il s'adresse, bien évidemment il s'adresse à une tranche d'âge qui va se situer entre 45 et 65 ans. Majoritairement ce sont eux qui ont répondu. On le verra peut-être dans notre échange sur le dossier, mais quid de la jeunesse entrepreneuriale? Est-ce qu'elle est présente déjà aux EDC? Est-ce qu'elle n'a pas répondu? Est-ce que vous avez le sentiment que si on mettait en parallèle les réponses des plus seniors et des jeunes, on aurait des réponses très différentes ou finalement elles peuvent être assez similaires?
Alors sur ces questions de la confiance, elles sont similaires. Je dirais que même que les plus optimistes sont les plus anciens, mais c'était aussi pour des raisons. C'est sans doute comme ils sont restés dans leur entreprise, et il y a eu des raisons qui font qu'ils sont restés et donc ils sont plus optimistes. Mmh. Mais j'observe pas de différence fondamentale par rapport aux échantillons qu'on a de jeunes et par rapport aux moins jeunes et aux pas jeunes du tout.
Ce baromètre, qu'est-ce qu'il nous dit du travail? Parce que finalement, c'est un petit peu le cœur. Et vous en êtes très satisfait. Vous dites finalement, c'est un des rares baromètres, peut-être qu'on ait fait, où on ait autant de matière à mâcher. Alors,
rare, faut l'enlever, parce qu'on a toujours de la matière. On avait fait il y a deux ans un baromètre on avait parlé de l'espérance, qui était extraordinaire comme enseignement. Mais celui-là est particulièrement riche, parce que d'abord, il révèle quelque chose d'important, c'est le fait que les entrepreneurs sont, aiment beaucoup leur travail. Ils aiment pas un peu, ils aiment énormément leur travail. Donc ça donne quelque chose à communiquer. Finalement, cette passion de ce que l'on peut faire est intéressante. Et ce qui est aussi également intéressant, c'est que le travail est source de joie, mais était également source de difficultés. C'est-à-dire qu'on a à peu près la moitié qui dit en même temps, mon travail a été source de très grande joie, et en même temps, il a été source de peine. Donc, donc je crois que l'amour du travail va permettre, doit nous donner un potentiel de faire quelque chose. C'est-à-dire que l'amour, c'est quelque chose qui peut se communiquer, c'est quelque chose qui peut se transmettre. Voilà. D'autant plus que dans mon métier, je mesure souvent on mesure la satisfaction au travail, mais surtout on mesure l'amour du métier. Et dans les populations, toutes générations confondues, l'amour du métier est extrêmement fort. Donc elle est extrêmement forte. Les gens aiment leur métier.
Qu'est-ce qu'on en fait d'un baromètre comme celui-ci? C'est très bien, c'est un point d'étape dans une année. Mais qu'est-ce qu'on en fait après aux EDC? À qui on le transmet? À quoi il va servir? Il va servir à quoi? À construire peut-être la vie des équipes, peut-être à inspirer des réflexions comme Pierre-Yves Gomez, comme Fabrice Adjage qui intervient sur les assises ou d'autres intervenants. À quoi vous le destinez ce baromètre?
Alors il est destiné à des émissions comme celle-ci, parce que c'est un moyen d'échanger, de faire connaître ce que l'on fait. Mais c'est aussi pour les équipes l'occasion de revenir un petit peu, parce que je pense dans ces chiffres, dans ces données, il y a des choses, et c'est le propre de ce type d'outil, ça permet de révéler des choses. Ça permet de révéler, par exemple, peut-être qu'on en reparlera, mais ça permet de révéler la place de la pensée sociale chrétienne, ça permet de révéler l'importance de la foi, ça permet de révéler également le flou dans lequel on est par rapport à l'intelligence artificielle, mais aussi la très grande montée sur la question écologique. Vous voyez, très forte montée.
Une question qu'on pourra peut-être poser d'ailleurs à François Bert, la place de l'IA dans le discernement, parce qu'aujourd'hui, on est quand même... Je dis pas que c'est rentré, mais ça va très très vite. Hein. Moi, je vois le monde de l'entreprise rentre énormément dans cette notion d'intelligence artificielle, parce qu'elle va devenir la clé pour certains, clé de la réussite du business. C'est des choses que vous allez peut-être évoquer dans les années à venir, cette place des nouvelles technologies. Moi, j'étais assez sidéré sur un des schémas, finalement. L'innovation technologique, l'innovation managériale, c'est pas forcément ce qui est recherché en premier lieu. L'important, c'est la vie des équipes, le bien-être au travail, en fait. Alors, la notion d'innovation est assez... elle reste importante, mais elle est quand même en deçà.
Oui, ce qui est... Et alors, c'est peut-être un des points sur lequel on va se différencier d'autres mesures vers d'autres entrepreneurs, d'autres familles d'entrepreneurs. C'est la très grande importance attachée à l'équipe et à la façon dont on la fait vivre. Elle est d'ailleurs particulièrement forte du côté des managers de grands groupes. Mmh. Et alors que du côté des entrepreneurs, ce que l'on construit ensemble, la construction est vraiment prioritaire.
Mmh. Le rapport au réenchantement du travail passe pour beaucoup dans la jeune génération, et peut-être un peu dans la sienne aussi, sur la question du sens. Hubert de Boisredon a sorti son livre « Déserter ou s'engager ». C'est vraiment quelque chose qui est au cœur. Est-ce que vous le sentez, vous, dans ce baromètre, la place de l'écologie, la place du sens, du développement durable comme un levier de réenchantement pour les entreprises?
Oui, nettement. On voit bien que c'est quelque chose qui monte, voire va devenir bientôt de majoritaire.
Et même central. Et puis les lois, hein, on a fait une émission sur la CSRD il y a peu de temps, va obliger finalement les entreprises à avoir cette double matérialité entre l'environnemental et le social et le résultat et le chiffre d'affaires. Donc finalement, on y va naturellement.
Alors, si c'est la loi, c'est pas forcément naturel. Peut-être là qu'il faudra retravailler.
Elle est obligée.
C'est pas forcément la meilleure façon de motiver, mais c'est intéressant et peut-être nécessaire. Moi, je pense que la date aussi devient très, 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 très centrale parce qu'en fait, il nous demande de prendre en compte, bien sûr, la question écologique, mais aussi la question sociale dans sa sens du champ, mais aussi la question technique, mais aussi la question éthique. Et je crois que c'est vraiment l'enjeu du futur. C'est cette prise en compte globale des questions.
Merci beaucoup Nicolas Masson d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Vous restez avec nous bien évidemment. On retrouve votre collègue et confrère Pierre Collignon qui n'est pas avec nous malheureusement, il aurait bien aimé être là, pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Et il n'est pas avec nous, mais il est avec nous quand même. Il s'agit de Pierre Collignon. Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Alors, point d'assise nationale des EDC pour vous cette année.
Hélas, des petits conflits d'agenda, comme on dit.
alors que les assises battent son plein, Pierre, vous avez décidé de rendre hommage au travail silencieux, au travail non rémunéré, au travail que personne ne considère plus.
Oui, car comme je l'ai déjà dit plusieurs fois à cette antenne, je trouve que l'on a trop tendance, lorsque l'on parle du travail, à ne considérer que le travail salarié, le travail rémunérateur. Et dans ce domaine, comme dans tant d'autres, je trouve que notre société cède à une forme d'utilitarisme, car elle ne considère comme travail que celui qui donne lieu à une rémunération. Pourtant, pour Pourtant, si on veut bien considérer les choses, bien le travail n'est pas qu'une marchandise et l'homme n'est pas qu'un instrument.
Alors, est-ce que c'est un message qui passera lors des assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens auxquels nous sommes en ce moment ?
Écoutez, oui, car avec la pensée sociale chrétienne, les EDC considèrent que le travail en lui-même a une très grande valeur, en lui-même donc, et qu'il ne peut pas se réduire à la valeur d'un simple échange de biens. Souvenons-nous, Jean-Paul II, dans son encyclique sur le travail, le rappelle constamment, le premier fondement de la valeur du travail, dit-il, ce n'est pas le genre du travail ou même sa rémunération, le premier fondement du travail, c'est l'homme lui-même.
Alors, en quoi est-ce que cette conception peut-elle réenchanter le travail, étant le thème de ces assises ?
D'abord, je crois qu'il faut prendre conscience que ces trois dernières années ont été particulièrement mouvementées. L'impact social et environnemental, le développement de nouvelles formes de travail et d'aspiration à travailler, on parle beaucoup de télétravail aujourd'hui, l'accélération des nouvelles technologies, les dépendances économiques, la recherche de sens, bref, tout ça interpelle entrepreneurs et salariés. Et dans ce contexte, les dirigeants doivent apporter des réponses à ces nouvelles aspirations complexes tout en inventant des modèles économiques porteurs de sens, participatifs et équitables. Alors, mais ce n'est pas tout.
Alors, que voulez-vous dire ?
Simplement que dans ce contexte, il faut aussi reconnaître et valoriser toutes les formes de travail, y compris celles qui ne sont pas rémunérées. J'insiste, le travail des grands-parents qui assurent la garde de leurs petits-enfants, le travail des parents et en particulier celui des mamans qui font des sacrifices importants pour prendre du temps avec leurs enfants, le travail de tous ces bénévoles qui font tourner les associations, eh bien, toutes ces formes de travail devraient être davantage reconnues.
Alors, ne le dites pas trop fort parce que l'État voudrait les taxer, ils ont déjà essayé. Mais elles ne le sont pas reconnues alors, Pierre ?
Non, parce que dans une société marchande, seule compte la reconnaissance par l'argent. Eh bien, je crois que c'est un leurre, il faut le dire. Et dans nos sociétés fracturées, je crois qu'il y a là une piste qui mériterait d'être davantage explorée, une piste qui pourrait réenchanter le travail.
Merci beaucoup Pierre Collignon. Nous, on fait une pause musicale dans cette émission. On retrouve nos invités en plateau pour évoquer justement le réenchantement du travail, pour évoquer aussi cette notion de sens du travail, mais aussi face au travail, quel discernement avoir quand on est dirigeant, collaborateur, salarié. C'est ce qu'on va voir avec nos trois invités d'ici quelques instants. Merci Pierre, on regrette bien que vous ne soyez pas avec nous. Bon week-end à vous quand même.
Merci à vous aussi et bonnes assises.
c'était ABBA, Money Money sur RCF. Il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie, il y a le sens, il y a le bonheur que l'on peut mettre au travail. C'est ce qu'on va échanger avec nos invités du dossier de l'éco des solutions. Comment aujourd'hui peut-on réenchanter le travail ?
L'éco des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, et on rentre tout de suite dans le dossier de l'éco des solutions. On va parler de réenchantement du travail avec Pierre-Yves Gomez, enseignant à l'EM Lyon. Bonjour, rebonjour Pierre-Yves.
Rebonjour.
Nicolas Masson qui était avec nous il y a quelques instants. Rebonjour Nicolas.
Rebonjour Patrick.
Et puis Christophe Delachaise. Rebonjour Christophe.
Bonjour Patrick.
Et François Baird avec nous depuis Paris. Rebonjour François.
Bonjour.
Voilà, on a refait les rebonjours et on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la question du travail, du réenchantement du travail. J'ai envie de poser la première question à vous, Pierre-Yves Gomez. Peut-être parce que vous avez cette vision généraliste de la question du travail. Rapprochez-vous bien de votre micro. Ce travail, on veut le réenchanter. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait un désenchantement de la question du travail ?
Alors, ça, certainement. Je ne sais pas s'il a jamais été enchanté, il faut se méfier du mot, mais en tout cas qu'il ait été désenchanté, qu'il soit en crise, comme on dit aujourd'hui, pour toute chose, c'est certain. On va dire à partir des années 2000, on voit dans toutes les enquêtes, on voit qu'il y a vis-à-vis du travail professionnel, parce qu'on parle bien du travail professionnel, hein, travail en entreprise essentiellement, qu'il y a une désaffection, enfin d'abord un doute, ensuite une suspicion et puis une désaffection dans l'ordre. D'abord un doute sur vraiment est-ce que c'est le lieu où je suis sécurisé, est-ce que c'est le lieu où j'ai envie de travailler, puis une suspicion, est-ce que finalement je suis pas une esclave d'automatisme, y compris financier, et enfin une désaffection. Est-ce que vraiment ma vie ne vaut pas mieux que je la consacre à des tâches que je peux juger soit peu utiles, soit insensées, soit inutilement répétitives, soit, et c'est souvent le cas d'ailleurs, soit insensées parce que on change sans arrêt de sens des choses, parce qu'on remet toujours en cause, parce que voilà, on n'a pas le sentiment de pouvoir bien travailler.
Alors, on s'était vu, on s'était écouté pendant la période du Covid, et puis après le Covid, vous aviez lancé des pistes sur cette réflexion sur la question du travail. Est-ce que vraiment le travail a vraiment vraiment changé ? Est-ce qu'on est dans une pleine révolution de la question du travail aujourd'hui, Pierre-Yves Gomez ?
Alors, oui, mais c'est pas lié au Covid. Le Covid n'a été qu'un révélateur. Voilà, d'une transformation qui a commencé, je le disais, à la fin des années 2000, et qui a pour origine, on vient de le dire, une sorte de désenchantement, fait que le travail ne va pas de soi, mais aussi qui a pour origine des questions purement techniques et même technologiques. Est-ce que la digitalisation a un effet structurant de la façon de penser le travail. Mmh. Essentiellement parce que grâce au fait de la digitalisation, on peut travailler facilement en dehors de l'entreprise en utilisant les mêmes moyens de production. Mmh. Essentiellement un ordinateur et un téléphone, et avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Mmh. Donc pour nombre de travailleurs, y compris des travailleurs qui ne sont pas des travailleurs d'école blanche, travailler, c'est aussi travailler chez soi, c'est faire des tas de choses utiles en dehors de l'entreprise, avec les mêmes outils, et parfois les mêmes outils professionnels. Quand je vois le soin que certains jeunes mettent à fabriquer, par exemple, des vidéos sur TikTok, et Dieu sait que voilà, c'est pas le cœur culturel de l'humanité, mais le soin et la qualité professionnelle de ces vidéos à la portée de gamins de 13-14 ans, je constate avec vous que si le travail a changé, c'est aussi parce que les conditions de travail, de la production, ont changé du fait de la technologie. Et donc le Covid a accéléré
tout ça.
Alors accéléré, en tout cas, a manifesté tout ça, parce que quand on a arrêté de travailler, le côté insensé du travail s'est manifesté, on a pu arrêter de travailler pendant un mois et demi. D'une part, et donc grand vide, d'une part, et d'autre part, on a beaucoup utilisé les nouvelles technologies, les technologies digitales, et donc ça a accéléré cet usage, et ça l'a rendu très naturel.
Nicolas Masson, dans le baromètre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on revient et on est revenu tout à l'heure sur cette question du travail. Est-ce que la notion de travail, c'est quelque chose qui est au cœur des équipes des entrepreneurs et dirigeants chrétiens? Est-ce que c'est quelque chose qui revient en leitmotiv? C'est compliqué avec mes collaborateurs, ils veulent plus venir bosser, le travail ne les intéresse plus, je sais plus comment les motiver. Est-ce que ce sont des leitmotifs qui reviennent dans les conversations qu'on peut avoir en équipe ou en inter-équipe ou en inter-groupe?
Alors, je crois que là-dessus, les entreprises ne sont pas égales. C'est-à-dire que quand on regarde, notamment dans le baromètre du côté des entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui pilotent leur entreprise et qui sont plutôt des entreprises, la question du travail apparaît peu. Elle apparaît, mais peu. En revanche, quand on regarde du côté des managers qui sont plutôt dans des grands groupes ou des grandes entreprises, à ce moment-là, elle devient extrêmement forte. C'est-à-dire que ça devient un sujet absolument majeur. Donc je pense que sur cette question-là, les entreprises ne sont pas égales.
Mmh. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour... Est-ce qu'il faut qu'elle soit égale ou pas?
Elle serait égale, mais du côté des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on retrouve finalement ce côté... qualité de vie, non pas au sens de la qualité de vie au travail, mais le fait que l'on vive ensemble, qu'on fait un projet. Moi, je suis très frappé que l'ensemble des entrepreneurs sont, passionnés par leur travail. Ils ne sont pas très passionnés.
Ouais. François Baird, de là où vous êtes, justement, cette question de réenchanter le travail, la question du travail, comment est-ce que vous l'abordez chez vous?
Alors, j'aborde en prenant un peu pour moi les deux extrémités de cette notion de travail, c'est-à-dire d'où on part, qui suis-je et vers où je vais, la mission. Je constate qu'en fait, on vit dans un monde bipolaire, dans le sens où on a soit toujours développé quelque chose qui était assez rigide, assez formel, qui faisait du travail quelque chose de très codifié, soit aller vers quelque chose d'un peu liquide, un peu très lié à l'émotion, écouter chacun, que chacun trouve sa partie, etc. Entre guillemets, d'un côté le taylorisme, de l'autre le développement personnel. Et quand on regarde au niveau historique, c'est exactement pareil. C'est avant mai 68, société rigide, après mai 68, société liquide. Et c'est pareil dans l'Église, avant le concile, Église rigide, après concile,
l'Église liquide.
Église qui peut être peut-être, qui peut avoir la tentation de se glisser trop dans l'interaction pure, dans l'horizontalité. Et pour moi, il y a une notion clé dedans, et je le constate à tous les échelons où je travaille, c'est la notion de mission. La mission, contrairement aux consignes, aux postes, aux codes, est quelque chose de vivant. Je dis que la mission, c'est l'actualisation du débouché collectif. Et donc, c'est quelque chose qui n'arrête pas de se reconnecter. Et voyez, on vit actuellement un peu une période de post-modernité. Il y a un besoin de sens à hauteur d'homme, à portée de main. Et donc, je constate que le travail, en fait, on retrouve quand même des composantes à tous les âges et toutes les configurations. L'intérêt que chacun, certes, comprenne qui il est pour produire le meilleur de lui-même, on est dans le talent, mais d'où l'intérêt des chefs, et c'est pour ça que je travaille beaucoup là-dessus, de donner quotidiennement du sens au travail en actualisant justement ce débouché collectif.
Quelle est la place, Pierre-Yves Gomez, du dirigeant, du manager, dans cette notion de réenchanter le travail? Est-ce que finalement, il faut que le leader soit heureux pour que ses équipes soient heureuses?
S'il est heureux, tant mieux.
Tant mieux.
Mais je pense pas que... Enfin, ça, c'est l'approche très narcissique du travail. C'est qu'en fait, c'est à partir du bien nombriliste de chacun qu'on créerait une sorte de bien collectif.
De bien commun.
Alors commun, je sais pas, en tout cas collectif. Non, je pense que ce qui fait le travail, j'aime beaucoup l'idée de mission, parce que mission, c'est être envoyé. Mmh. C'est-à-dire que c'est précisément... On a envoyé, on sort. On est en sortie, puisqu'on parle d'une église en sortie aussi. En sortie. Et le leader, le dirigeant, est celui qui met des troupes, en tout cas des collaborateurs, en sortie. Mmh. En sortie. L'inverse de, c'est un lieu de travail tellement convivial, gentil, où on est bien, on coucoune, etc. Parce que ça éteint les énergies. En revanche, être en sortie parce qu'on participe à quelque chose de plus grand, parce que on a besoin de nous, parce que voilà, on est dans ce mouvement, ça je crois que c'est ce qui enchante le travail, mais c'est aussi ce qui enchante le métier du manager, le métier du dirigeant. S'il a le nez sur son profit et son tableau Excel, c'est sûr que non seulement il n'enchante personne, mais il n'enchante même pas son propre métier. En revanche, s'il est celui qui appelle à la mission, j'aime bien ça, hein, qui appelle à la mission, il retrouve... il retrouve son rôle de leader. Hein. Le leader, c'est celui justement qui lead, qui est le premier de cordée, ou qui, voilà, je ne peux pas trop cette expression, mais mettons qui est le berger, voilà, qui avance en premier.
Alors, c'est intéressant parce que quand on... Allez-y François, mais je terminerai juste la réflexion de Pierre-Yves en disant on voit bien que derrière la notion de mission, parce que il y a cette notion de d'être engagement et d'engagement de sens, et d'ailleurs aujourd'hui il y a de plus en plus d'entreprises qui se disent à mission et qui sont des sacrés leviers pour réenchanter le travail. François Berger, je vous laisse réagir.
Non, et enfin pour aller bien sûr dans le sens aussi de Pierre-Yves, pour m'en dire encore plus loin, moi je parle d'esprit de victoire, c'est-à-dire que ce que décrivait très bien Pierre-Yves, c'est que un manager, ça produit la performance. Mais la performance, vous voyez, c'est un résultat pur, décorrélé justement souvent d'une finalité. Je dis un peu en provoquant que les indicateurs de performance sont souvent des manières commodes de donner des bonnes notes à la défaite. Mmh. C'est-à-dire qu'on se donne de la bonne conscience sur des indicateurs visibles qui sont à côté de la plaque. Aussi sûrement qu'en France, on a vécu en Covid avec que des indicateurs de taux d'incidence, comme s'il y avait plus d'autres problèmes ailleurs. Un leader, ça produit l'engagement. Et ça, c'est déjà énorme, puisqu'effectivement, on enclenche les gens. Mais il y a beaucoup de leaders qui enclenchent les gens dans une mauvaise direction parce que ça s'actualise pas. Je pense à deux moustachus pendant la guerre. Mais vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut enclencher les gens sans avoir l'intelligence successive des contextes pour que ça colle à un débouché partagé. Et un chef produit la victoire, c'est-à-dire l'alignement entre du talent particulier et un débouché collectif, avec ce souci de la décision pour que ce soit payant. Voilà, parce que sinon Louis XVI est un beau leader aussi, mais on a vu ce que ça a pu donner. Et donc intéressant pour moi d'articuler sans cesse cette notion d'engagement des gens, mais avec un chef qui a cette intelligence encore une fois des situations pour faire en sorte que cet effort ne soit pas gâché et que ça produise pour moi un sentiment d'utilité qui est à mon avis le levier le plus puissant pour un salarié, c'est-à-dire savoir que ce que je suis, parce qu'un chef l'emploie bien, trouve un débouché pour tout le monde.
Nicolas Masson, quel est l'apport de la pensée sociale chrétienne dans cette... Parce qu'on voit bien, ça débouche là-dessus, ce que dit François à l'instant. Quel est le débouché, quels sont les apports de la pensée sociale chrétienne dans cette démarche de réenchantement du travail,
alors,
Nicolas Masson ?
La pensée sociale chrétienne, dans cette enquête, ça a été pour moi une très grande joie. Je la partage, c'est-à-dire que...
C'est justement ces slogans d'RCF, la joie se partage.
Donc, on va partager cette joie, c'est de voir que cette pensée sociale chrétienne est devenue de façon incroyablement plus forte l'ADN du mouvement. C'est-à-dire que sur la question, est-ce que finalement la pensée sociale chrétienne, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien, on a monté de 18 points en quelques années. C'est-à-dire que c'est vraiment le point essentiel. Et est-ce que c'est quelque chose qui me permet de contribuer à la fécondité de mon entreprise? Là aussi, on est quasiment à pas loin de 80% et on a monté également sur les questions fortes quasiment de la même chose. Et ce qui me met en joie, c'est peut-être, et c'est là un message que je voudrais passer, c'est que il y a un lien entre cette implication de la mise en œuvre de cette pensée, c'est-à-dire cette façon dont on peut mettre finalement la charité au cœur du fonctionnement de notre entreprise, et la satisfaction au travail des entrepreneurs. En gros, ceux qui sont à fond dans la pensée sociale chrétienne, ils sont deux fois plus enthousiastes sur leur travail.
Est-ce qu'il peut y avoir une forme de laïcisation? Je vois réagir Pierre-Yves Gomez.
Je suis ravi. Mais peut-être, parce que j'ai vu dans le sondage que beaucoup disent « ça m'aide à discerner ». Qui est très important, discerner. Mais je crois, pour rebondir sur ce qu'on
disait encore auparavant,
c'est que ça devrait encore plus aider à discerner le bien. C'est-à-dire qu'il y a une proposition de la doctrine sociale ou de l'enseignement social qui est une proposition de bien pour le monde, de bien pour la maison commune, et que ça peut être parce qu'on est encore pris dans des inhibitions de sécularisation, parce qu'on a peur, on oublie de le proposer. Il y a une vision positive du monde du fait de la, enfin, inclus exprimée par la pensée sociale chrétienne dont nous sommes porteurs et responsables et que le monde attend que nous
formions. En fait, vous voulez
aussi
dire qu'on a du mal à la proposer à l'extérieur, elle sort pas trop de nos girons.
Et je dis vraiment, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a vraiment quelque chose à dire et quelque chose qui est attendu. Moi, je vois même des collègues athées me sachant chrétiens et disant mais et vous chrétiens, qu'avez-vous à dire sur des sujets qui sont des sujets angoissants pour eux, notamment écologiques ou économiques, et qui ont envie de discours chrétien. Donc là, je crois qu'on a changé d'époque et qu'aujourd'hui, on attend aussi les entrepreneurs sur...
Nicolas Masson, ça fait réagir tout de suite à ce que disait Pierre-Yves.
Deux choses. Je pense que c'est tout notre chemin à venir, c'est effectivement de sortir pour parler de cette pensée et de partager ce trésor. Et il y a là-dessus quelque chose qui mérite d'être souligné parce qu'on a un peu de chemin encore à faire. C'est la place de la destination universelle des biens. Mmh. On pose la question, nous on aime bien poser la question de voir finalement quel est le principe que vous préférez. Donc là, c'est vraiment la dignité, le bien commun. C'est vraiment, c'est ça qui est central. C'est vraiment au cœur de notre trip. Et quel est celui où vous êtes le plus de mal, qui nous donne le plus de mal? Et massivement, c'est la destination universelle des biens. Et moi, j'ai envie de dire, mais c'est dommage, parce que finalement, c'est celui qui rend le plus heureux. Mmh. C'est celui qui est celui du don, c'est celui où on va transmettre. Donc, voilà. Et donc, quand on découvre finalement ce qu'il y a derrière ce principe, alors, je ne sais pas si on va redevenir narcissique, mais finalement, on va redécouvrir ce qu'est le bonheur. Donc, ne nous en privons pas.
Et n'oublions pas que Jean-Paul II, dans Sanctissimus Annus, dit bien que la destination universelle des biens ne peut se comprendre aussi que dans la dimension de propriété. Hein. Son chapitre 3, c'est vraiment la réponse du capital au don.
Tout ce qu'on a, c'est pour les autres.
Mmh. Voilà, c'est une pensée extrêmement subtile, subtile, intelligente, une vraie proposition pour le monde, et c'est dommage qu'on ne se rembarre pas. Et je pense que les entrepreneurs qui ont répondu ne la connaissent pas. Parce qu'en fait, je suis sûr que ça touche davantage leur pratique qu'ils ne le pensent. Mais ils voient destination universelle égale communisme, je sais quoi.
Ils font du Monsieur Jourdain, c'est-à-dire qu'ils la font sans le savoir.
Davantage qu'ils le pensent.
On a un module qui est sur la...
Et puis après, François, vous réagirez.
Module sur la formation à la destination universelle des biens, c'est qu'on a intitulé « Ma relation à ma propriété ». Et c'est vrai, moi je m'amuse beaucoup parce qu'elle a, c'est une de celles qui marche le mieux en termes de transformation des personnes. Parce qu'en fait, les gens viennent, je caricature un peu en se disant « Merde, il va falloir que je fasse un chèque ». Et en fait, ils repartent en se disant « Mais c'est génial, en fait, tout ce que j'ai, c'est pour les autres. Et en fait, j'y suis déjà, donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. » Alors, peut-être qu'ils font le chèque aussi. Mais c'est découvrir ça qu'il faut absolument qu'on travaille.
François, comment vous réagissez? Puis après, je laisserai le mot de la fin, enfin, pas le mot de la fin, mais son mot de la fin à Pierre-Yves Gomez, parce que vous devez prendre un train et je ne veux pas que vous le ratiez. Comment vous réagissez? À un moment donné, Pierre-Yves Gomez parle de discernement.
Non, mais je réagissais par rapport à ça en disant qu'effectivement, c'est passionnant de voir effectivement cette tendance. Mes deux réflexions, c'est de voir comment on est complémentaire, quand je vois justement les approches multiples autour de ce plateau, complémentaire dans l'approche, à la fois le travail sur les finalités et que chacun puisse les mettre en perspective et le travail au quotidien. C'est-à-dire que moi, mon obsession, c'est la modalité. C'est-à-dire que un chef qui a cette finalité-là, il faut qu'il le traduise au quotidien par quelque chose qui est de l'ordre du comportement et qui est vécu. Hein. On a pu voir justement dans les entreprises à mission des gens qui mettaient des bonnes finalités, mais qui n'étaient pas capables justement de traduire ça en vie opérationnelle quotidienne, parce que c'était un problème de personnalité. D'où le gros travail que je fais moi sur la construction d'équipe, hein, pour que derrière le créatif visionnaire, il y ait bien un chef qui a l'intelligence du quotidien. Et la deuxième chose, c'est que cette destination universelle des biens, je trouve ça intéressant de la traduire en termes de subsidiarité, pardon, sur ce que j'appelle l'espace de règne, c'est-à-dire cette articulation de clos interdépendants, mais où chacun a la possibilité sur elle, d'un pouvoir de croissance autonome. Mmh. Voilà. Et d'où le fait pour moi que le discernement est clé là-dedans, parce que le discernement a comme matière première ce qu'on a tendance à négliger, quelque chose qui s'appelle le contexte. Et que chacun a bien un contexte et qu'il s'agit bien d'articuler les contextes aussi sûrement que, on va dire, le monde paysan peut se coaliser, mais chacun aura bien un terrain particulier sur lequel avoir les bons outils et les bons leviers.
Pierre-Yves Gomez, on va vous laisser parce qu'on ne veut pas vous faire rater votre train. Quel serait pour vous le levier à actionner justement aujourd'hui pour réenchanter le travail dans les équipes, pour réenchanter le travail auprès d'une société, parce qu'on n'a pas parlé des jeunes et du travail, on en a parlé au CK, à l'Université Homme Entreprise l'année dernière, mais comment est-ce qu'on peut réenchanter le travail et redonner, je sais pas, on a l'impression que ce mot travail, on n'est pas rentré dans la définition, mais que ce mot travail finalement il s'est délité. Et j'entendais une émission très intéressante quand on parle du lieu de travail aujourd'hui. En fait, avant, on vous donnait le nom de l'entreprise. Aujourd'hui, on vous dit je suis sur le site 2 ou je suis chez moi. Donc, quels seraient les leviers à actionner pour vous, Pierre-Yves Gomez?
Je crois revenir au travail tel qu'il se fait, ce qu'on appelle le travail réel. Le travail tel qu'il se fait, tel qu'il se pratique. Pas le travail fantasmé, pas le travail idéalisé, pas le travail traduit par des tableurs, mais le travail tel qu'il se fait concrètement en regardant des personnes, le travail réel. De revenir à cette notion de travail bien fait. Mmh. C'est-à-dire remettre au cœur de l'analyse du travail le beau geste. la beauté même de ce que l'on fait. Et ce travail bien fait, il n'est pas besoin de revenir à l'artisanat. Même le plus humble des collaborateurs dans un processus de production, il a son geste professionnel. Il a ses contournements à lui. Il a ses façons de faire. Il a quelque chose du travailleur qui est à reconnaître. Donc, reconnaître le travail tel qu'il se fait, le travail réel, et le bien et le beau du
et
travail.
Le beau. Remettre de la beauté finalement dans le travail.
Absolument, ouais. Le travail bien fait, la beauté du geste.
Et la beauté du geste. Merci beaucoup Pierre-Yves Gomez. Merci on vous laisse partir. On va continuer nos échanges avec nos invités, même si on arrive tout doucettement sur la fin de cet échange. On n'a pas parlé beaucoup avec vous François, enfin on l'a évoqué un petit peu, de la question du discernement. Quelle place prend le discernement soit dans le management d'une équipe, soit dans la direction d'une entreprise, et peut-être sortir de la notion de discernement telle qu'on peut la comprendre avec son acception chrétienne, qui est la place du discernement et de l'Esprit Saint. Le discernement, c'est beaucoup plus large que ça, François Baer.
Oui, tout à fait. L'enjeu de ma démarche a été vraiment de rendre le discernement au plus grand nombre et de le poser d'abord sur sa dimension la plus naturelle. Hein, pour prendre un peu une image marquante, mais que j'évoquais un peu avant cette émission, c'est de dire... j'ai beaucoup d'estime pour Louis XVI, mais je préfère en tant que roi Henri IV que Louis XVI. C'est-à-dire qu'il y en a un qui, effectivement, n'est pas exemplaire au niveau privé, mais une intelligence des situations, de l'essentiel par étape, beaucoup plus flagrante que le premier qui, effectivement, est capable de raisonner en termes de sainteté, de tout axer par rapport à ça, mais n'a pas du tout cette intelligence des contextes. Et donc, par rapport à ça, moi, je vais raisonner toujours en trois étapes, c'est-à-dire déjà voir qu'il y a une dimension naturelle. Et pour faire simple, on est tous prêtres, prophètes et rois, mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois. Le prophète, c'est le cérébral, c'est Descartes qui dit « je pense, donc je suis ». Pour lui, décider, c'est décider par rapport à sa tête, donc c'est décider par rapport au plan. Et donc, il y a dès le départ une grande difficulté justement à prendre en compte les variations situationnelles, puisque pour lui, décider, c'est suivre le plan. Le prêtre, c'est le relationnel. Bah, lui, il dit « j'interagis, donc je suis ». Et donc, il est très dépendant des interactions, on le voit au niveau politique, hein, cette instabilité émotionnelle totale de nos dirigeants qui dirigent par rapport aux gens, qui décident pardon par rapport aux gens. Et seul le chef naturel, le roi, est quelqu'un qui décide par rapport au contexte. Lui, il dit « j'écoute donc je suis, je ne peux pas vous dire ce que je vais faire tant que j'ai pas les éléments de contexte ». Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est bien sûr à partir de là, de construire les équipes, parce que dès qu'on va être sur une taille d'équipe importante, pour moi, la qualité indispensable d'un chef, et on le dit pas assez, et je déplore qu'il y ait tant d'instituts de leadership qui développent la croissance des gens sans prendre en compte ça, et qui sont du coup un peu des machines à Louis XVI. Et donc voilà, on fait des supers équipes, mais qui se plantent lamentablement parce qu'ils n'ont pas écouté la situation. Eh bien, c'est à défaut, si on n'est pas comme ça, au moins, à tout le moins, de construire des équipes complémentaires. Et des équipes complémentaires sur des critères de personnalité. Hein, si vous mettez Einstein, Nathalie et Juppé ensemble, ça plane à 10 000, mais personne ne sait décider quoi bouffer. Donc, il serait peut-être plus préférable de mettre Indiana Jones en bras droit d'Einstein pour que l'équipe tienne la route.
Voilà. C'est ça.
Et troisième sujet, c'est effectivement de voir que le discernement, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'écoute répétée intérieure. Et donc, former les gens, non pas avoir la bonne information, mais d'abord, même si c'est utile, d'abord savoir lire intérieurement quand une décision contextuelle est bonne ou pas.
Ce qui veut dire savoir aussi prendre des temps pour soi, équilibrer sa vie pro et sa vie perso pour pouvoir trouver des lieux. Alors peut-être qu'aux EDC, on parlerait de moments d'alliance. Peut-être que c'est une période de petit bambou pour d'autres avec les applications. Mais l'idée, c'est à un moment donné de savoir prendre le temps du silence intérieur pour pouvoir justement jauger la situation et jauger l'écoute pour discerner du bon chemin à prendre.
Tout à fait. Deux choses. Un, le silence, oui, clairement. J'insiste beaucoup là-dessus. Je fais beaucoup travailler les dirigeants là-dessus sur la capacité à domestiquer ce silence qui est la condition justement pour voir l'invisible. Et le deuxième qui est très lié, c'est la solitude. C'est-à-dire que c'est une question que je pose systématiquement aux dirigeants. Comment gérez-vous la solitude? Et je leur dis, la solitude est un creusement. La solitude est l'occasion d'élargir en vous une cavité autonome de tri qui vous permet de voir l'essentiel. Tant que vous courez partout en étant tributaire des autres, en fait, vous êtes dans l'incapacité de résister à la pression des événements pour creuser votre sillon tel que le contexte vous le livre. Et peut-être aussi oui, je vous en prie.
Allez-y, terminez.
Non, juste un conseil pour la route aussi, sur lequel je fais beaucoup travailler les dirigeants. Je les amène mais ça va dans le sens de ce que vous dites, hein, à sanctuariser des temps de vision. Je leur dis, quel temps hebdomadaire consacrez-vous à votre vision? Et c'est assez frappant de voir qu'il y a beaucoup de dirigeants qui sont surmenés et qui, du coup, s'aperçoivent bien. Ils ont à aucun moment cette possibilité de prendre le temps de vision pour être acteur.
C'est ça. Nicolas Masson, la solitude, c'est la réponse que donnent les EDC. Au-delà de la réflexion et de la vie de prière, se retrouver en équipe, ça rompt cette solitude du dirigeant qui est insurmontable. Moi-même, je suis dirigeant de mon entreprise. Je suis content d'aller voir des copains dirigeants pour leur dire poser mes valises et leur dire oh, c'est la merde ou c'est la joie.
C'est vrai que c'est ce moment où on est en équipe et on discute de notre activité, de nos joies, de nos peines. C'est un moment absolument essentiel. Mmh. Et moi, j'en ai besoin. C'est quelque chose dont j'ai besoin pour vivre. Mmh. Je voudrais rajouter une toute petite chose par rapport à compléter ce que disait François. Parce que je dirais, pour aller un tout petit peu plus loin, et le métier de l'enquête, et c'est cela, c'est que si finalement les chiffres que l'on donne, si la réflexion qu'on a ne nous amène pas à contempler la réalité, à la contempler, c'est-à-dire se l'approprier personnellement, il y a quelque chose qui ne va pas se faire bien. Et je dirais même, moi j'aime bien, quand on travaille sur des sujets, de dire, dans le fond, à un moment donné, si vous n'aimez pas cette réalité que vous avez devant vous, si franchement, il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre de dimension charitable, et il y a quelque chose qui ne sera pas tout suffisant.
Allez, il est temps de se quitter déjà. Merci à tous. Merci François Bert. Merci Pierre-Yves Gomez qui est parti. Merci Nicolas Masson d'avoir été avec nous. Nous, on continue tout de suite avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Il a été nos grandes oreilles pendant toute cette émission. Il s'agit de Christophe Delachaise. On se retrouve tout de suite après ça.
J'ai bien toute ma mémoire, disait Dieu dans un coin du ciel. J'avais commencé une histoire sur une planète nouvelle, toute bleue. Bleue pour pas qu'on la confonde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. J'avais mis des gens de passage et j'avais mélangé les couleurs. Je leur avais appris le partage, ils avaient répété par cœur, toujours, tous toujours dans la même ronde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. Pour chaque fille.
Alors, est-ce que vous aussi vous êtes allé vous asseoir sur le rebord du monde avec Francis Cabrel? Nous, on va aller s'asseoir sur le rebord du monde de l'entreprise avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde, avec Christophe Delachaise.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Voilà, l'écho des solutions qui se termine avec Christophe Delachaise. Bonjour Christophe.
Bonjour Patrick.
Alors vous avez été nos grandes oreilles pendant tout cet échange. Je vous ai vu gratter, noter plein de choses. Si on vous reçoit aujourd'hui, c'est à double titre. D'abord parce que vous connaissez le monde de l'entreprise, vous le fréquentez depuis une bonne vingtaine, trentaine d'années maintenant.
Plus de 40 ans.
Plus de 40 ans maintenant. OCK, qui est une entreprise de communication, d'accompagnement des entreprises, un centre aussi de formation. Donc vous connaissez le cœur et les problématiques de l'entreprise. Et puis aussi parce que l'OCK porte depuis plusieurs dizaines d'années, plusieurs vingtaines d'années même, au moins 20 ans en tout cas, les universités hommes entreprises qu'on a la joie de retransmettre sur nos antennes tous les ans. Et vous venez de sortir un livre, Acteurs d'un monde meilleur, un nouveau visage pour l'entreprise aux éditions Salvator, qui est en fait une synthèse de toutes ces universités, de toutes ces rencontres que vous avez eues avec des conférenciers, avec des intellectuels, avec des entrepreneurs, et vous nous en livrez la substantifique moelle, et il ouvre justement par la question du travail. Alors, j'ai envie de vous poser la question, vous qui nous avez écoutés pendant toute cette émission, quels sont les éléments, les points clés qui ont retenu votre attention, puisque je vous ai vu prendre plein de notes, Christophe ?
Oui, merci Patrick. Oui, alors, je trouve que ce qui est important déjà, c'est l'entreprise, ce n'est pas forcément le lieu où forcément il faut un épanouissement. Mmh. Moi, je crois que, parce que je l'ai vécu personnellement, que l'entreprise est un lieu où on peut trouver un épanouissement incroyable, où on peut même ne pas avoir l'impression de travailler. C'est pas forcément linéaire, mais ça j'y crois beaucoup et je rejoins donc ce qu'a dit Pierre-Yves quand il dit aussi l'entreprise n'est pas forcément un lieu où tout le monde doit être bienveillant et gentil. En tout cas, c'est pas le cas, on le voit. Mais par contre, c'est un lieu qui peut proposer aux jeunes et aux moins jeunes, un projet, et un projet stimulant. Mmh. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, effectivement, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure dans son baromètre, la question de la pensée chrétienne qui est de plus en plus importante, en tout cas pour les entrepreneurs et les gens chrétiens. Mmh.
Est-ce que vous avez le sentiment que cette pensée sociale chrétienne, cette pensée humaniste sur le monde du travail, je vois Nicolas qui est à côté de moi qui me sait, mais certains ne s'identifient pas dans cette pensée tout en s'identifiant, mais ne veulent pas l'appeler chrétienne, donc ils vont l'appeler humaniste du travail. Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui avez fréquenté pas mal de chefs d'entreprise qui ne sont pas forcément membres des EDC, pas forcément chrétiens, que vous avez reçu des conférenciers de tout type, que cette pensée sociale chrétienne infuse, comme le disait et l'espérait Pierre-Yves et le disait Nicolas ?
Ce que j'ai constaté, c'est qu'on a reçu, nous, au CECA, plus de 180 grands témoins, donc des gens absolument passionnants de tous horizons, et que quand on a choisi des personnes qui incarnent la pensée sociale chrétienne, je pense des gens comme
Pierre-Yves Gomez,
Fabrice Hadjadj, ou même des personnalités très médiatiques comme Ingrid Betancourt qui a ouvertement parlé de sa foi et de sa confiance en Dieu. Quand on lui dit « mais qu'est-ce qui vous a fait tenir pendant 6 ans et demi dans cet enfer ?» la jungle en Colombie, elle dit bah, écoutez, moi j'ai un ami qui est très cher pour moi, on l'appelle comme on veut, moi je l'appelle Dieu et je savais qu'il ne m'abandonnerait jamais.
La première fois où je suis venu d'ailleurs aux universités d'entreprise, c'était Claire Lee qui était là et qui racontait aussi ce parcours de résilience qu'elle a fait au fil des ans. Claire Lee qui est aujourd'hui en France mais qui a vécu le drame du génocide cambodgien. Le monde du travail, c'est un des chapitres de votre livre. On parle aussi des grandes mutations. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cet ouvrage? Vous pensiez qu'il y avait vraiment une substantifique moelle à sortir de ces 20 ans d'université en entreprise, Christophe Delachaise ?
Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie ? C'est que nous on est persuadés au CECA, aujourd'hui, évidemment, quand on dit l'entreprise, il faut que ce soit une entreprise à la fois performante et humaine, ça paraît évident pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, une des questions qui revient sans arrêt, après évidemment la question de la rentabilité, c'est le sens. Donc ça paraît évident à tout le monde. Mais nous, on a initié cette réflexion il y a à peu près 25 ans et c'était pas du tout le sujet. Et quand j'ai commencé à travailler il y a maintenant plus de 40 ans, c'était encore moins le sujet. Le seul sujet, c'était l'entreprise doit être là et est là pour faire du profit, point. Tous les autres sujets d'écologie, de dignité, de l'homme au cœur d'entreprise, c'était complètement secondaire. Et donc, nous qui sommes persuadés depuis très longtemps que l'entreprise doit être à la fois performante et humaine, et les deux sont liés très souvent. On a donc initié ce rendez-vous de l'Université de l'entreprise, et donc j'ai eu envie effectivement d'abord de montrer que c'est possible, et que souvent ça marche très bien, ça va de pair, et d'autre part effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de raconter quelques-uns des plus beaux moments qu'on a vécus
Alors justement, quel est le plus beau pour vous? Est-ce qu'il y en a un qui, parmi tous ceux que vous avez vécu, il y en a un qui vous revient systématiquement en mémoire? Alors, soit parce que peut-être le plus inattendu, ou peut-être parce que ça a provoqué chez vous une émotion particulière, ou une réflexion, ou une mise en action particulière, Christophe Delachaise.
Oh, le plus inattendu, c'est certainement, ça remonte un petit peu, hein, c'était, on venait d'arriver dans ce très très beau lieu du château Smith-Lafitte, et notre thème, c'était l'engagement. On avait réussi à mobiliser le très grand écrivain qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Dominique Lapierre, qui était, moi, un de mes héros. J'avais lu un grand nombre de ses livres. Et puis également le prêtre des Loubards, le fameux
Guy Gilbert.
Guy Gilbert a fait une conférence passionnante, très émouvante également. Les gens, je voyais tous les gens au premier rang qui avaient les larmes aux yeux. Et à la fin, ça a été vraiment une vraie standing ovation. Et il y avait à peu près 400 personnes qui étaient très très à l'unisson. Et à la fin de sa conférence, Guy Gilbert interpelle Daniel, c'est Daniel Katia, le propriétaire de Smith-Lafitte, ancien président de Gosport. Il lui dit, Daniel, j'aimerais célébrer la messe dans tes belles vignes. Il faisait extrêmement chaud. Florence Katia a tout de suite pris les choses en main. Et on s'est retrouvés. Donc, alors, il s'est tourné vers les gens. Il a dit, mais qui veut participer? Les gens étaient hyper interloqués, pardon. Aujourd'hui, on est dans un rassemblement de chrétiens dirigeants. Bon, ça aurait pu paraître normal. Nous, il y a toutes les sensibilités, oui. Et il y a beaucoup évidemment d'athées. Et on s'est donc, il a posé la question et on s'est retrouvés donc à la fin du cocktail, 60, dans une pièce qui n'était pas très grande, il faisait très chaud, et il a célébré la messe avec toutes les personnes. Donc ça a été un moment évidemment très fort, mais j'en ai beaucoup.
Des moments. Et celui qui vous a mis en action, et on terminera là-dessus, parce que l'émission arrive malheureusement à sa fin, on aimerait en dire plus encore, mais celui qui vous a le plus marqué, mis en action?
Alors, il y en a beaucoup également, mais plus récemment, je citerai peut-être Aymeric Jacquillat, le président créateur, enfin oui, président de la CAMIF, qui a transformé quand même complètement le modèle économique de la CAMIF en pure player. Et il a décidé, il a convaincu ses actionnaires pour ça, que puisqu'ils étaient entreprises à mission, et donc dans les statuts, il y avait ne pas forcer les gens à acheter, acheter français, etc., etc. Enfin, toute la thématique RSE dans laquelle il croit beaucoup. Et il avait décidé de fermer le site internet, c'est-à-dire le jour
du Black Friday, de fermer le site internet.
Pas simplement de ne pas participer à l'opération, mais de fermer le site internet. Et ça m'a beaucoup marqué.
Merci beaucoup. Alors, je rappelle votre livre, hein. On en saura plus, hein. Le monde du travail, les grandes mutations, l'innovation, on a parlé d'IA et on l'a évoqué bien avant qu'on en parle, que ce soit au cœur du sujet, hein. Je me souviens avec Idriss Aberkan. Ah, c'est oui. Acteur d'un monde meilleur, un nouveau visage pour l'entreprise aux éditions Salvator. Précipitez-vous si vous êtes un chef d'entreprise et que vous voulez avoir une sorte de panel d'une réflexion globale de plus de 25 ans de réflexion aux universités hommes entreprises, à l'université hommes entreprises. Merci beaucoup Christophe Delachaise. Il est temps pour nous de se quitter. La semaine prochaine, c'est le week-end des rameaux et donc on va parler de résilience dans l'entreprise avec nos invités. Rebondir, être résilient, finalement c'est ce qui se passe un petit peu pendant ce week-end des rameaux. Le Christ rebondit à plusieurs reprises pour arriver à célébrer la scène. Et on va vivre ce Tridium Pascal, vous allez voir, de manière assez étonnante. Merci beaucoup Christophe.
Résilience et espérance, c'était le thème de notre université en 2023.
Exactement. Merci beaucoup à toutes et à tous. À très bientôt. Vous nous retrouvez dès ce vendredi 17h sur les plateformes rcf.fr et puis sur RCF dès 14h tous les samedis. Bon week-end à tous. À très bientôt. Au revoir.